La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce nouveau numéro de La Science s'amuse, l'émission scientifique coproduite par l'Université de Montpellier et Divergence FM qui vous emmène en croisière dans les laboratoires de l'archipel Muse. Et aujourd'hui, c'est escale longue, on reste au port. Un paquebot comme le nôtre, ça s'entretient, alors on fait briller les cuivres, ménage, sécurité, inventaire des cambuses et même les effectifs. Et on n'oublie pas le point qui fâche, l'égalité homme-femme dans l'équipage science. On en est où ? Évidemment, avec Aline, on s'est dit qu'il fallait savoir balayer devant sa porte, alors nous sommes allés voir du côté de notre programmation. Sur 17 émissions, 11 ont été organisées avec des invités hommes, 5 avec des femmes et une mixte. Alors quoi ? Dans une émission animée et fabriquée par des femmes, nous serions passés à côté d'un différentiel aussi énorme ? Malheureusement, non. Car ça nous aurait plu d'afficher la parité la plus parfaite en invitant exactement autant de femmes que d'hommes à notre micro. Sauf que des femmes auteurs de publications scientifiques, on en trouve moins que chez leurs collègues masculins. Ce constat fait depuis la lorgnette du service communication de l'université. Notre invité vient de le confirmer en publiant dans la revue Conservation Letters une étude s'intéressant aux auteurs de publications scientifiques dans les domaines de l'écologie et de la biologie. Enfin, pas tout à fait la biologie. Et qui met en évidence non seulement la surreprésentation d'auteurs hommes, mais aussi la prédominance de 5 pays occidentaux. On en parle donc aujourd'hui avec Vincent de Victor. Bonjour.
Bonjour.
Je vous présenterai un peu plus dans 2 minutes. À vos côtés, et pour nous expliquer comment les choses bougent, parce que bien sûr, elles bougent, May Morris, chercheuse à l'Institut des biomolécules Max Mousseron et référente à Montpellier de l'association Femmes et Sciences. Bonjour May.
Bonjour.
À mes côtés pour mener cette interview, comme chaque semaine, celle qui est un genre à elle toute seule, Aline Perriot.
Bonjour.
La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors, Vincent de Victor, je ne vous ai pas présenté dans l'introduction pour maintenir un petit peu le flou. Donc, vous êtes biologiste de la conservation à l'ISEM, l'Institut des sciences de l'évolution. Jusque-là, je ne me suis pas trompée.
Oui, c'est ça.
Vos co-signataires sur l'étude sont également des biologistes. Et pourtant, quand on voit le sujet de votre étude, on aurait tendance à penser que les questions d'égalité homme-femme relèvent davantage du champ des sciences humaines et sociales. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller explorer ce terrain-là ?
C'est un étonnement, en fait, un étonnement personnel, mais aussi collectif, à constater que des noms reviennent souvent lorsqu'on essaye de comprendre qui fait la science et de vouloir explorer qui sont les personnes qui sont derrière ces noms. Donc finalement, c'est une initiative assez naturelle dans la mesure où quand on pratique la recherche, eh bien, on est assez conscient quand même que c'est une construction sociale avec des problèmes d'interaction, de compétition, de collaboration, de tout ce qui va finalement animer la création d'un résultat. Donc on est un peu forcé de se poser des questions sur la manière dont cette science progresse, qui la construit, quelle est son histoire, quels sont les freins, les leviers qui font la dynamique scientifique.
On est vraiment dans une démarche épistémologique, on y reviendra, mais c'était une réflexion sur votre science. Oui.
Et du coup, May Morris, on a parlé de publication. Là, c'est une étude qui porte sur les publications scientifiques. Et pour expliquer un peu mieux aux auditeurs les enjeux dont on parle, qu'est-ce que ça représente une publication dans le parcours d'un chercheur ? Est-ce que, par exemple, pour la carrière d'une femme, c'est déterminant d'avoir, d'une femme ou d'un homme d'ailleurs, mais pour la carrière d'un chercheur, c'est déterminant d'avoir plus ou moins de publications ?
Oui, effectivement, dans la carrière d'un chercheur ou d'une chercheuse, c'est effectivement important de valoriser, de valider concrètement le travail qui a été réalisé. Ce travail, il va être expertisé par d'autres personnes dans le même champ scientifique. Et une fois que c'est accepté, critiqué, revue, cette validation, cette publication va être lue, va être publique par la Terre entière. Et il se trouve qu'ensuite, quand on cherche à être recruté ou promu dans une carrière scientifique, le nombre de publications est compté. Et si je je vais plus loin, c'est pas seulement le nombre de publications, mais ce qu'on appelle l'impact factor, c'est-à-dire la renommée finalement de du journal scientifique dans lequel on aura publié.
Et est-ce que ça explique également qu'il y ait souvent moins de femmes au grade les plus élevés dans la recherche ?
Alors ça n'explique pas du tout pourquoi il y a moins de femmes. Il y a énormément de critères qui font que les femmes progressent moins vite. Mais il y a aujourd'hui un constat que la maternité, elle a bon dos. Hein. Pendant longtemps, on considérait que c'était un problème. Les femmes voulaient avoir des enfants, donc travailler moins. Pas du tout. C'est un phénomène sociétal très, très large. Il y a énormément de facteurs dès la petite enfance. Hein. Tout ce qui est stéréotype qui rentre en jeu, tout ce qui est choix d'orientation, tout le conditionnement des femmes versus des hommes, c'est-à-dire vas-y mon gars, tu peux faire des maths, tu vas être bon, alors que les jeunes filles, on se posera plus de questions. On les soutiendra moins également par la suite dans leur carrière scientifique. Et c'est vrai, effectivement, on a généralement des potes, hein, des copains, les hommes se soutiennent entre eux, mais inconsciemment, je dirais, les femmes ont beaucoup moins tendance à le faire. Et puis quand on propose des noms dans des comités, dans des instances, dans des jurys, on pense naturellement aux noms qu'on voit, parce que ça rentre inconsciemment. Hein. On voit des noms sur des publications, donc on pense à inviter ces gens-là dans les congrès ou à les citer pour des comités, pour des jurys, des conférences. Et donc les femmes sont moins visibles.
Alors Vincent de Victor, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez construit cette étude, comment vous avez circonscrit votre objet? Donc on parle de quelle période, on parle de quelle revue, on parle quelle méthodologie vous avez?
Alors ce qu'on a voulu faire, c'était ajouter peut-être un point qui était un peu absent de toute cette littérature qui s'accumule sur les inégalités, les problèmes de manque d'inclusion dans la pratique de la recherche, en s'attaquant à un problème qui avait été sous-examiné, c'est-à-dire celui d'un obstacle qu'on rencontre le long de la carrière, finalement, scientifique. Parce qu'on sait, on constate qu'il y a un problème dans la manière dont les femmes sont invitées, par exemple, à donner des conférences dans des colloques. On a souvent plus d'hommes qui sont invités comme chercheurs invités. On a aussi des problèmes dans les comités éditoriaux, des journaux. Tout ça, ça a été pas mal documenté. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe pour le long de la carrière normale, je dirais, d'un chercheur? Quand est-ce que les choses décrochent? Et c'est vraiment la question que vous voulez se poser. Donc ce qu'on a regardé, c'est quelque chose d'assez précis, c'est les chercheurs qui publient beaucoup, voilà, qui sont ceux qui vont publier de nombreux articles, en faisant cette hypothèse que ce sont souvent ces chercheurs qui vont avoir beaucoup de renommée, être recrutés plus facilement, gagner en responsabilité, diriger des équipes, diriger des laboratoires, etc. Et donc, on a compté, finalement, le nombre de ces chercheurs grands publiants dans les différents journaux. Quels journaux ? Eh bien, on a circonscrit, finalement, les journaux qui étaient les nôtres, de notre discipline, de l'écologie, de l'évolution et de la biologie de la conservation. Ça fait quand même un champ assez large de 13 journaux scientifiques, dont certains sont extrêmement renommés. Et là, on a compté tout simplement depuis 1945 jusqu'à 2016, donc sur une période extrêmement large, le nombre de chercheurs grand publiants. Et le constat est sans appel. On tombe sur seulement 11% de femmes parmi ces chercheurs grand publiants. C'est vrai que ça, c'est un résultat qui nous avait, qui nous a tout de suite donné envie d'aller plus loin. Alors, avec un ami, on s'est amusé à regarder si c'était le cas dans d'autres journaux. Ce n'est pas quelque chose qui est présent dans l'étude, mais on est tombé sur des choses intéressantes, comme le fait que certains journaux qui sont plus spécialisés dans la sociologie, par exemple, il y a un journal qui s'appelle le Journal du mariage et de la famille, Journal of Marriage and Family. Il y a bien plus de femmes qui publient dans ce journal-là. Donc, c'était pour reprendre sur la question des stéréotypes. On voit qu'effectivement, les journaux eux-mêmes sont des vitrines qui reproduisent ce nombre de clichés, de stéréotypes ou de biais qui sont présents dans la société dès le départ.
Et cette période, vous l'avez dit vous-même, elle est très large, donc depuis 1945. Pourquoi on se dit qu'il y a eu une évolution quand même du statut des femmes assez énorme depuis 1945. Pourquoi est-ce que vous avez voulu remonter aussi loin?
On pense qu'il y a une certaine inertie qui fait que certains chercheurs qui sont installés depuis longtemps restent encore en place et composent un peu ce paysage des chercheurs grand publiants. Donc on a voulu vraiment être capable de refléter cette inertie ou cette composition de la communauté des chercheurs grand publiants en étant sûr de brosser une période suffisamment large pour inclure des jeunes, des moins jeunes parmi ces chercheurs.
Alors, vous nous avez expliqué que non seulement vous avez montré que c'était majoritairement des hommes, mais aussi que les trois quarts d'entre eux viennent de seulement 5 pays parmi les grands publiants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels pays et d'après vous, pourquoi ils sont majoritaires?
Alors ça, c'est le deuxième résultat qui nous a fait un petit peu froid dans le dos, même si on en avait un petit peu conscience. On le sait qu'il y a un barrage de la langue et puis une différence culturelle majeure dans la manière dont les sciences sont produites par des pays occidentaux qui dirigent, qui crée, qui stimule une certaine recherche scientifique basée justement sur ce système de publication très porté sur l'évaluation quantitative des chiffres, des facteurs d'impact, etc. Mais il se trouve que dans ce système-là, on a un biais extrême, je dirais, puisque seulement 4 pays de langue anglophone, hein, donc les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada, eh bien, contiennent plus de 50% de ces chercheurs grand publiants. Et on a une surreprésentation de certains pays occidentaux qui balayent la plupart des autres pays, donc avec 42 pays qui incluent l'ensemble des chercheurs les plus publiants. Ça veut dire que plus de 150 pays ne comptent même pas un seul chercheur parmi ces chercheurs grand publiants. Il y a des choses qui sont vraiment troublantes. Par exemple, il n'y a aucun chercheur russe dans notre liste. Il y a énormément de pays qui sont pourtant très dynamiques sur le plan de la construction de la recherche scientifique, qui n'incluent pas de chercheurs dans cette liste de chercheurs grand publiants dans nos journaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a vraiment une certaine science qui est construite par certains pays. Donc ça permet d'avoir une certaine humilité sur l'inclusivité et l'universalité de la science produite. On en est bien loin. Alors, on a une discussion entre nous pour savoir si c'était grave ou pas. Sur ce point précis, ce n'est pas tout à fait clair. Pourquoi? Parce qu'on peut déplorer ce biais, mais aussi considérer que tous les pays n'ont pas vocation, je dirais, à reproduire le type de science qui est créée par ces pays occidentaux. Il me semble que la construction du savoir peut aussi inclure une certaine diversité qui est souhaitable et qui n'est pas représentée dans cette idée de « il faut publier dans ces journaux-là en particulier ». Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait d'autres manières de construire du savoir que de participer à cette recherche très publiante.
Et justement, vous vous y êtes intéressé un peu plus longuement à ça. Si ça passe pas par ce réseau de publications, est-ce qu'on peut envisager comment elle se fait, la science, dans ces pays? J'imagine qu'en Russie, on y réfléchit à ces questions, effectivement, mais on sait par quel autre canal ça peut, science peut se diffuser.
Ouais, et je pense qu'il y a une manière de catégoriser les choses qui clive un petit peu un savoir dit profane qui serait non apparent, non publié, ne faisant pas l'objet de toute cette tradition qu'on a construite de l'évaluation par les pairs, qui est soit un peu dénigré, soit moins visible, soit mis de côté par les journaux et puis la manière dont on fait confiance à un fait scientifique. Donc il y a cette partie du savoir qui, à mon avis, est rendue un peu invisible. Et puis une autre partie du savoir qui est celui du grand tirage, du grand résultat, de la publication avec tout ce qui est là de bibliométrique et puis de quantitative. Et donc je pense que si, ma foi, cette connaissance est produite dans des pays où il n'y a pas ces systèmes, où il n'y a pas cette culture de vouloir mettre en avant par des chiffres, de vouloir diffuser, de créer du chiffre un savoir, et bien ce savoir, il a tout aussi sa légitimité. Donc, dans les sciences de la biodiversité en particulier, on a des savoirs locaux, par exemple, qui savent très bien décrire, comprendre, analyser la nature qui se trouve autour d'eux et qui n'est pas, je veux dire, qui ne passe pas par ces étapes de la publication.
Et pour revenir justement à ces étapes de la publication, on en a parlé un petit peu avec May Maurice tout à l'heure sur l'importance que ça pouvait avoir sur une carrière. Est-ce qu'on peut revenir un peu concrètement sur, en fait, le cheminement qu'il y a de la recherche à la publication? Comment est-ce que ça fonctionne entre le moment où vous faites votre travail de recherche et le moment où il est publié dans un journal, une revue?
Alors, ça démarre par l'idée qu'on suppose qu'on a quelque chose d'intéressant à raconter. Donc, soit de nouveau, soit d'utile, soit tout simplement de très intéressant, suffisamment intéressant. Donc il y a de la construction du résultat scientifique, la construction du fait, et qui nécessite donc le recours au protocole, à toute la méthode scientifique. On a des prédictions qu'on teste. Mais une fois qu'on a établi le fait qu'on a une contribution à apporter à l'échelle de la communauté, on rédige un article. Ça commence déjà un peu par là, c'est-à-dire qui rédige l'article. Et déjà là, on peut voir qu'il peut y avoir des problèmes, je dirais, de biais qui se jouent. Qui a l'autorité pour s'approprier un résultat, le mettre en avant? Qui a le savoir-faire et l'expérience qui va faire que l'article va être bien écrit, par exemple? Là, on a un clivage très fort qui se fait entre ceux qui maîtrisent très bien la langue anglaise et les autres chercheurs qui sont plus handicapés par ça.
Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, la plupart des publications scientifiques sont rédigées en anglais.
Elles sont rédigées en anglais, c'est la langue officielle de la science, quoi. Bon. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de produire ce résultat de manière la plus compréhensible et puis la manière la plus crédible possible pour que ça soit relu dans des journaux scientifiques par d'autres chercheurs anonymes qui vont ensuite juger de la qualité de ce travail. Et après un long processus de commentaires, questionnements, réponses, améliorations, l'article pourra être enfin publié. Donc c'est un long cheminement. Ça met à peu près 2 ans de publier un résultat, hein, en moyenne. Donc c'est un processus long et qui est déjà assez excluant, qui exclut les personnes qui ne vont pas assez vite, les personnes qui font des recherches qui sont peut-être moins sur la sellette, qui maîtrisent moins la langue anglaise. Donc il y a déjà dans le processus même d'écriture d'une publication, certains chercheurs qui tirent leur épingle du jeu bien plus que d'autres.
Alors, mais Maurice, donc on vient de parler de l'étude de Vincent de Victor qui concerne, on l'a dit, l'écologie, et alors j'ai dit la biologie, c'est un peu plus précis, biologie de la conservation et de l'évolution. Vous, quel regard vous avez sur la science globalement? Est-ce que cette étude sur l'écologie, elle reflète finalement une situation qu'on retrouve dans tous les champs disciplinaires?
Alors déjà, je tiens à féliciter Vincent parce que cette étude, elle est factuelle, elle est chiffrée. On n'a pas forcément les chiffres des publications dans d'autres disciplines scientifiques. Donc ce que je vais vous répondre, ce n'est pas nécessairement basé sur des publications. Toutefois, dans tous les champs disciplinaires, effectivement, on va exclure les sciences humaines, hein, puisque c'est pratiquement l'inverse. On retrouve une prédominance masculine dans les postes à responsabilité, dans les laboratoires, dans les sphères décisionnelles. Ça, c'est très important. Parce que la société est construite autour de ce modèle masculin et parce que finalement, les femmes ont été éduquées à moins oser. On parlait du processus de construction d'une publication. À un moment donné, il faut y aller, il faut oser écrire son article. Ce n'est pas que les femmes ne sont pas capables, mais parfois, elles se remettent en doute, et pas mal en doute, parce que cette confiance en soi, on ne leur apporte pas. Et l'environnement, effectivement, des laboratoires n'est pas forcément en faveur de cette confiance des femmes.
Est-ce que selon vous, donc cette prédominance des hommes, j'aurais pu vous la poser également, Vincent de Victor, cette question, est-ce qu'elle biaise les résultats? Alors biaise, le terme est peut-être un peu fort, mais est-ce qu'elle oriente les résultats de la science?
Elle oriente, c'est sûr, parce qu'il y a des champs disciplinaires qui sont des résultats hein, scientifiques qui existent, qui ne sont pas moins bons que les autres, mais qui sont moins portés que les autres, sont moins valorisés que les autres. Effectivement, on sait que certains pays vont porter haut et fort leurs résultats, d'autres beaucoup moins, mais ça ne veut pas dire que la bonne science n'est pas faite derrière. Donc oui, il y a un biais. Et il y a également un biais, forcément, quand on parle des résultats des femmes et des résultats des hommes. Alors, c'est des choses qui sont en train de changer, parce que la jeune génération qui arrive a le droit d'en parler, déjà, c'est plus tabou. Les jeunes femmes, on essaie de les former. Pas qu'elles deviennent des hommes, mais de leur expliquer que la science, elle est faite pour elles aussi et qu'il faut qu'elles osent, et il faut qu'elles portent leurs valeurs, leurs résultats, leur science, et que ce modèle finalement masculin doit devenir un modèle ouvert à tous.
Et justement, on en a parlé rapidement de votre association qui s'appelle Femmes et Sciences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus quel est son rôle, qui la compose déjà? J'imagine qu'il y a des hommes et des femmes. Et, oui. Quel est son rôle justement à Femmes et Sciences en tant qu'association?
Oui, tout à fait. Donc Femmes et Sciences est une association nationale qui a été fondée en 2000 et par un groupe de femmes essentiellement scientifiques qui ont émis le constat que de moins en moins de jeunes femmes s'engageaient dans les carrières scientifiques et technologiques. Donc l'asso est relativement petite puisqu'elle compte 350 personnes, hommes et femmes d'ailleurs, mais beaucoup moins d'hommes parce que les hommes ne se sentent pas concernés, mais on fait un appel aux hommes, on a besoin de vous. À Montpellier, on est 70 adhérents deux et trois hommes. L'idée, effectivement, c'est de promouvoir la science auprès des jeunes et en particulier des jeunes femmes. Parce que les jeunes, il faut déjà balayer les stéréotypes et il faut déjà les inciter à s'orienter vers la science, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons. Et à l'inverse, l'ASSO a pour objectif de soutenir les femmes dans les sciences et les technologies et à toutes les étapes de leur carrière scientifique. Donc à Montpellier, on a actuellement des femmes de tous les domaines scientifiques. Ça va de l'informatique à la physique, à la biologie, l'écologie. Voilà, on a de tout. Et puis c'est des femmes souvent très très engagées. Certaines ont vécu des choses plus ou moins graves, entre guillemets, je dirais. Du harcèlement, du vrai harcèlement. Du harcèlement moins visible, on va dire, mais qui est le harcèlement quotidien qu'on subit quand on a des petits mots, des petits gestes, des exclusions, effectivement, dans les laboratoires. Donc déjà, nous sommes un réseau, nous en parlons. Et nous sommes un réseau également qui a des actions. Donc actuellement, on a une action en Occitanie avec nos collègues toulousaines qui s'appelle Égalité, elles assurent. Et l'idée, c'est faire un travail, un vrai travail de regard croisé, c'est-à-dire déjà chiffrer tout ce qui se passe dans les laboratoires scientifiques, dans les domaines publics, mais également dans les entreprises privées qui participent à cette initiative. Et l'idée, c'est derrière de mettre en place des actions concrètes pour aller vers la parité. Et ça commence par l'affichage des stéréotypes, ça commence par l'affichage, mais vraiment de manière ouverte, du nombre de publications faites par des femmes et faites pour des hommes, pour qu'il y ait une prise de conscience. Alors... Et puis... Pardon, je vous coupe.
Vous avez parlé justement de l'importance de chiffrer les choses. On n'a pas terminé donc sur les résultats de votre étude. On est en train de montrer qu'on fait bouger des choses. Mais donc dans votre étude, Vincent de Victor, donc pour les signataires les plus âgés, on était donc sur 3% de proportion féminine, c'est bien ça? Oui. Et donc chez les plus jeunes, on est à 18%. Donc certes, ça augmente, mais 18%, ça reste très peu. Les choses, elles augmentent. Enfin, elle bouge, mais elle bouge doucement. Vous avez été surpris par ce chiffre de 18%, vous ?
À la fois surpris, déçu, pas surpris. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il n'y a pas une fatalité. Voilà, déjà, c'est pas inscrit que ça doit être comme ça, à ce point dominé, biaisé. Donc, les choses peuvent changer. Elles changent, mais il est probable que ça ne suffira pas. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de regarder les choses pour qu'elles changent dans le bon sens naturellement. Ou sans qu'il y ait une intervention un peu plus forte pour faire bouger ces lignes-là. Donc c'est pour ça que je suis très content de prendre connaissance du travail de May là-dessus, et puis de toute cette communauté qui essaye de faire les choses de façon un peu plus forte, visible, d'afficher les choses, parce que ce 18%, il peut être condamné à rester 18% si on ne fait rien d'autre.
Et justement, vous proposez aussi une liste de recommandations pour donner plus de place aux femmes dans la littérature scientifique. Concrètement, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait être fait et par qui ?
Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être des changements nécessaires, mais clairement non suffisants. Les changements nécessaires, c'est de veiller, vous avez commencé en disant qu'il faut balayer devant sa porte, de veiller à ce qu'on ait bien... fait l'examen de ce qui se passe dans les laboratoires, dans les communautés auditoriaux, dans les communautés qui recrutent, dans les communautés qui vont produire un état scientifique et l'évaluer. Où est-ce qu'on en est ? Déjà, de faire un peu un état des lieux. Ça, c'est une première chose à faire, puis effectivement, de le rendre visible. Changer ça de façon un petit peu anecdotique, en prenant des éditeurs plus de pays du Sud ou de minorités ou de plus de femmes, etc., peut relever d'une forme de changement d'affichage, mais qui ne touchera pas au fond. Le fond, c'est qu'est-ce qui crée de l'exclusion au moment où je rentre, où je mets le pied dans une carrière scientifique dès le plus jeune âge. Et ça, c'est un certain nombre d'obstacles qui peuvent s'accumuler, qui sont parfois effectivement de l'ordre du non-dit, de l'ordre de l'habitude, de la reproduction. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Par exemple, il y a quelque chose nous qui nous a un peu... intrigué, c'est qu'il y a très 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 peu d'articles qui sont avec des auteurs femmes en seul auteur, portés seulement par une femme qui décrit son résultat propre et qui publie en seul auteur, alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui écrivent en seul auteur. Comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'il y ait ce décalage-là ? C'est des choses qui peuvent être travaillées, un peu ciblées sur ces mécanismes.
Comment vous réagissez justement, mémorer ça, à ces recommandations?
Oui, effectivement. Nous, on a constaté au sein de l'association que les femmes ont tendance à être plus altruistes, donc à inclure les autres, à aller vers les autres et à se mettre en retrait. Elles ont plus d'humilité que les hommes. Et ça, c'est très, très fort en science parce que il faut se vanter, il faut se valoriser. Le modèle dans lequel on vit part du postulat que plus on sait se rendre visible, plus on va monter. Après, nous, on fait un travail auprès des jeunes. D'une part, on va dans les écoles, primaires, collèges, lycées, pour effectivement présenter nos parcours et parler des stéréotypes. On passe des petits films, on fait des jeux de rôle avec les enfants, on essaye de déstéréotyper. Et là, il y a des très belles surprises parce qu'il y a des enseignants qui jouent vraiment le jeu. On a aussi monté un programme de mentorat pour doctorantes à Montpellier, à l'université. On a été pionniers sur ce programme-là depuis 2015.
Vous pouvez nous en parler un peu plus, justement?
Et donc, l'idée, chaque année, c'est qu'on a un réseau de 50 mentors, hommes et femmes, donc qui sont dans les laboratoires, des maîtres de conférences, des chercheurs, chercheuses. Et on a un réseau de mentorés, donc des doctorantes de toutes les disciplines, qui vont faire un speed matching avec ces mentors pour trouver leur binôme basé sur l'affinité. Ensuite, ce binôme va se rencontrer à raison d'une fois par mois pendant 12 mois. Et en parallèle, on va leur offrir des ateliers, des témoignages de femmes scientifiques pour leur montrer finalement comment on peut valoriser sa recherche au-delà de la thématique très spécifique qu'on développe pendant sa thèse. L'idée, c'est qu'à travers ce réseau et ce binôme, qui va être finalement un binôme de conseils personnalisés, on va aider cette jeune femme à construire son projet de carrière professionnelle, mais aussi à s'ouvrir sur un réseau et comprendre quelles sont les clés finalement, comment le modèle scientifique fonctionne. Et de nouveau, l'idée, ce n'est pas qu'une femme devienne un homme, ni à l'inverse, mais de créer un champ qui va être diversifié et où tout le monde va être inclus. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin des hommes, parce que quand les hommes prennent conscience que d'avoir cette diversité homme-femme, c'est aussi intéressant pour eux, et quand ils jouent le jeu d'aider à former les jeunes femmes pour qu'elles soient incluses et qu'ils acceptent cette inclusion, à ce moment-là, on peut avancer concrètement.
Vincent de Victor, le mentorat, ça vous tente?
Oui.
Génial.
Vous répondez à une des dernières questions que j'allais vous poser. On entend beaucoup parler dans l'actualité en ce moment, justement de est-ce que finalement la lutte pour l'égalité homme-femme appartient aux femmes? Est-ce qu'on doit faire venir les hommes dans ces réunions? Est-ce que... On voit bien que vous, dans la science, et cette émission, elle le montre aussi, il y a ce désir d'avancer ensemble sur cette question-là, d'y travailler ensemble. C'est indispensable pour vous?
Complètement, sinon c'est la guerre. Et en fait, quand on utilise le mot féminisme aujourd'hui, moi j'espère que pour beaucoup, ça sonne positif. Parce qu'il y a 20-30 ans en arrière, féministe, c'était une connotation négative. C'était des femmes qui se battaient contre les hommes. C'était des femmes qui devaient porter des salopettes pour être légitimes. Et en fait, c'est pas ça la parité. C'est ensemble.
Très bien. Eh bien, Vincent de Victor, Maurice May, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu répondre à nos questions. La Science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, amusez-vous bien.
Merci.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.